Je vais parler de ma rencontre en fait avec Pauline. J'ai préparé donc un travail sur les autrices de la bibliothèque des amis de l'instruction que j'ai présenté la semaine dernière. Et dans mes recherches, je suis tombée donc sur bien sûr sur Rosamonde Lehmann et sur le nom de sa traductrice qui était donc Jean Talva. Et puis je suis tombée sur la thèse en fait de Pauline qu'elle a gentiment mise en ligne. Et j'ai découvert ce travail qu'elle avait fait sur les traducteurs pendant l'occupation. Donc j'ai pris contact avec elle pour qu'elle vienne nous présenter cette traductrice qui semble avoir une histoire un petit peu particulière.
Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord donc à remercier donc Isabelle Pasquet et puis Hélène Personnes donc de m'avoir conviée à présenter une partie de mes recherches, puis surtout de m'avoir fait découvrir la BAI parce que j'avoue que avant donc l'email d'Isabelle Pasquet, je connaissais pas l'existence de la BAI. Donc c'est vraiment une belle découverte aussi pour moi et donc je suis ravie d'être là. On peut dire que ma conférence va faire un peu suite, en tout cas est liée un petit peu à la conférence à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, qui était captivante aussi sur le fond d'autrice de la BAI. Donc c'est aussi encore deux femmes dont je vais vous parler aujourd'hui, notamment d'un duo, donc l'écrivaine anglaise Rosamonde Lehmann et puis sa traductrice Jean Talva, qui a traduit la plupart de ses œuvres. Et puis on constatait que même dans les récentes rééditions, ce sont toujours les traductions de Jean Talva. Je vais vous parler surtout d'une période qui va se limiter à l'occupation, puisque c'est la période sur laquelle mes recherches se focalisent, donc août 1940, juillet 1944 exactement. Donc j'ai soutenu ma thèse il y a plus de 2 ans maintenant, qui était intitulée « La traduction de la littérature anglo-saxonne en langue française sous l'occupation ». Ma directrice de thèse, qui était donc Christine Lombez, professeure à Nantes Université, elle est spécialiste en traduction en temps de guerre. Elle a dirigé un programme donc financé par l'Institut Universitaire de France de 2014 à 2019 qui s'appelait « Traduire sous l'occupation ». Elle avait observé que dans les ouvrages présentant l'histoire de la traduction, finalement, il y avait quelques lacunes sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment dirigé le volume du XXe siècle des histoires des traductions en langue française chez Verdier. Donc en dirigeant ce volume, elle s'est rendue compte qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Elle a voulu combler un petit peu ce manque. Donc autour de ses recherches, elle était tombée sur quelques traductions de la littérature anglo-saxonne, ce qui l'avait interpellée parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais les traductions de littérature anglo-saxonne contemporaine ont été interdites par les listes de censure sous l'occupation. Il était interdit de traduire et de publier de la littérature anglo-saxonne dite contemporaine. Contemporaine, on entend tous les ouvrages qui avaient été publiés après 1870. C'est ce qui a été écrit dans la circulaire qui a été envoyé au syndicat des éditeurs. Voilà. Donc le programme a travaillé sur la France et la Belgique exclusivement. Et puis maintenant, elle a étendu ses recherches et on travaille maintenant au sein d'un programme ERC, donc vous voyez ici, qui s'appelle Translatoire, qui est financé donc par l'Europe et qui s'intéresse à la période de toute la Seconde Guerre mondiale et dans plusieurs pays d'Europe. Donc maintenant, moi, je suis avec des chercheurs polonais, grecs, ukrainiens, roumains, italiens. Donc c'est vraiment d'un grand intérêt et donc on étudie vraiment les relations entre la politique et la traduction à cette époque-là. Pour l'anglais, ton intuition s'est révélée assez juste parce que la première étape a été de répertorier des traductions, tous les textes littéraires que j'ai pu trouver qui ont été traduits en anglais. Et je suis arrivée au moment de ma thèse à peu près 750 références. Maintenant, j'en suis plutôt à 800, on va dire, quelque chose comme ça. Et la base de données, elle, aujourd'hui, compte presque 5000 références, donc de plusieurs langues. Ça a été de l'allemand, du grec, de l'espagnol, de l'italien, vers le français toujours, qui ont été publiées en France et en Belgique. Donc elle est consultable en ligne. Nous, on a travaillé tous à partir de fichiers Excel et donc on a fait un répertoriage des traductions qu'on a découpé en plusieurs colonnes dans un fichier Excel. Vous voyez donc le titre traduit, le nom du traducteur, s'il y en avait plusieurs, le nombre de pages, l'année, l'éditeur, le pays. Et grâce à ça et à tout ce travail, maintenant, grâce à la base de données, on peut afficher quelques statistiques sur le côté si vous êtes curieux d'aller voir. Donc c'est la base de données de SOC, traduire sous l'occupation. Donc c'est une première base de données. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive parce qu'aussi l'époque fait que on trouvait peut-être pas tout. Par exemple, pour les volumes, moi je me suis surtout appuyée sur le catalogue de la BNF On s'est rendu compte, par exemple, que les traductions n'étaient pas forcément identifiées comme des traductions à l'époque. Donc, on a des versions 2, adaptations 2, versions françaises 2. Et donc, parfois, dans la recherche par mots-clés, on peut passer à côté d'une traduction dans le catalogue. Mais bon, il est déjà quand même très bien rempli. Puis, grâce à Gallica, on a accès quand même à beaucoup d'ouvrages. Mais j'ai fait une recherche aussi dans les revues littéraires et les périodiques, donc pas qu'en volume. Et donc ça m'a donné à peu près 200 références sur les 800. Donc avant d'évoquer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'écrivaine anglaise Rosamund Lehmann et sa traductrice Marthe Lévesque, je pense qu'il est important de rappeler un petit peu d'éléments du contexte de l'époque pour bien se rendre compte à quel point traduire de la littérature anglophone à cette époque était un véritable enjeu pour mieux cerner les enjeux liés à la traduction de la littérature anglophone à cette époque. Après avoir présenté rapidement peut-être le travail de Rosamund Lehmann, je vais vous parler des traductions françaises, plus précisément de sa traductrice, puisque c'est mon objet d'étude. Plutôt s'arrêter sur le parcours et puis sur donc ces deux chemins de vie pendant la période de l'occupation. J'ai choisi de parler de la relation professionnelle et puis ensuite amicale de ces deux femmes parce que déjà elle m'a plutôt émue dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. On a Rosamund Lehmann qui essaie de joindre désespérément sa traductrice qui ne répond pas. Et puis elle lui a écrit un hommage très beau en préface de son livre « L'enfant de la bohémienne ». J'ai vu qu'il existait vraiment une relation entre elles grâce à leur relation professionnelle et donc ça m'a beaucoup émue. Et puis donc, comme je vous disais, une partie de mes recherches est consacrée à l'étude des trajectoires des traducteurs. J'ai déjà publié le portrait d'un traducteur sous l'occupation, donc Jean Val, qui lui est un philosophe français, mais qui a beaucoup traduit de l'anglais sous l'occupation. Il était en fait bilingue, mais son parcours de traducteur finalement est assez méconnu. En s'intéressant à ces trajectoires, parfois, on arrive à mieux comprendre des choix de traduction, des choix de textes traduits. À l'époque, choisir de traduire un texte interdit relevé d'un acte de résistance, c'était vraiment pour s'opposer à l'ordre établi. Donc Jean Val, ça fait de lui donc un grand résistant par son activité de traducteur de plutôt poésie américaine à l'époque, depuis les États-Unis où il était exilé. Le portrait de Marthe Lévesque, dont je vais vous faire part, va être publié prochainement aux côtés de celui de Madeleine Bosco, l'épouse de l'écrivain Henri Bosco, qui a aussi traduit un numéro entier de sa revue marocaine, Agouedal, qui était publié à Rabat. Henri Bosco a sorti un numéro anglais en 1943, c'est sa femme qui a tout traduit. Pareil, Madeleine Bosco, on ne connaît pas trop son apport à la traduction de la littérature anglo-saxonne à l'époque, mais elle y a participé. La traduction m'intéresse tout particulièrement, notamment lorsque l'écrivaine parle la langue d'arrivée, comme c'était le cas pour Rosamund Lehmann, qui maîtrisait très bien le français, jusqu'à traduire Jean Cocteau, Jean Cassou, donc elle a fait des traductions du français. Et puis aussi, c'est pour moi l'occasion de comprendre un peu la perméabilité qui peut exister entre un texte original et sa traduction. Donc l'interdiction des traductions de l'anglais par les Allemands pendant la période de l'occupation, c'est un fait généralement peu connu du grand public. Et pourtant, les listes auto, donc ça c'est la première, prononcent vraiment l'arrêt de mort de nombreux auteurs sur le champ de la littérature, juifs, communistes, francs-maçons, mais aussi donc anglais et américains. Il y aura trois listes auto en tout, une en 1940, une 1942 et 1943. Donc à chaque fois, elles s'enrichissent d'auteurs et de titres interdits et devient beaucoup plus stricte envers la traduction de l'anglais. Une petite nuance toutefois, les traductions d'auteurs anglophones classiques sont toujours autorisées, donc on trouve beaucoup de Shakespeare, puis d'autres classiques qui restent complètement autorisés. Et les auteurs irlandais, les auteurs indiens anglophones peuvent aussi être publiés, les ennemis de l'Empire britannique en somme. Et si l'on résume donc, d'un côté les Allemands interdisent et contrôlent une certaine littérature en France, et de l'autre côté, ils prennent la traduction d'ouvrages en allemand via la liste Matthias, qui compte environ 550 œuvres allemandes à traduire en français. Donc l'occupant souhaitait non seulement contrôler la vie culturelle des Français, n'est-ce pas, mais en quelque sorte les isoler finalement, les couper du monde. Donc en interdisant les traductions d'œuvres anglo-saxonnes contemporaines en langue française, la liste auto, publiée dès les premiers mois de l'occupation avec le concours tout relatif du syndicat des éditeurs français, révèle vraiment un enjeu politique de taille qui avait été préparé, hein, parce qu'elle est publiée vraiment en septembre 40, et qui s'inscrit au cœur de mes recherches. Et pourtant, on trouve des traductions de l'anglais, des traductions d'œuvres contemporaines sous l'occupation, donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Du point de vue de la littérature tout d'abord, pour mieux comprendre finalement les échanges qui ont persisté sous l'occupation entre les pays anglophones et la France, surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, Et puis, d'un point de vue des études de traduction aussi, pour voir qui traduisait, on voit que finalement, là, le paysage littéraire, éditorial, et puis donc les acteurs finalement de la traduction changent un peu sous l'occupation. Donc on voulait voir s'il y avait une période de continuité ou de rupture plutôt à cette époque. Pour la base de données aussi, ce qui est apparu très clairement, et ça c'était vraiment une grande surprise, c'est vraiment la présence des femmes. Donc moi par exemple, sur les à peu près 750-800 références que j'ai entrées dans la base de données, j'ai beaucoup de femmes. Je vais vous présenter quelques statistiques. Je vais quand même parler seulement de tendance parce que comme je vous disais, la base de données n'est peut-être pas exhaustive. Elle a continué d'évoluer un petit peu après la publication des résultats dans ma thèse. Donc je parle de tendance. Et puis aussi parce que on s'est arrêté au texte littéraire, donc pas à tout ce qui a été traduit pour la prose, le théâtre et la poésie. Et puis, comme je vous disais, parfois j'ai peut-être pas accès à certaines références, aussi des publications clandestines, donc on en découvre encore, je pense. Parmi les mesures qui ont renforcé le contrôle des Allemands sur l'édition française, la commission de contrôle de papier est mise en place en 1942 et contrôle tout manuscrit avant de délivrer la précieuse autorisation de paraître. Aucune impression ne pouvait être entreprise sans un numéro d'autorisation. Et le but premier de la commission était d'opérer un premier tri et de limiter les chiffres des tirages. Ensuite, toute publication devait obtenir le visa de la Propagandaabteilung, service de propagande allemand. En parallèle, les Allemands ont pris possession des messageries Hachette pour contrôler la diffusion aussi, la distribution des livres. Jusqu'en novembre 1942, avant l'invasion totale du territoire, la censure est exercée par les services du gouvernement de Vichy, qui était réputé comme moins strict. Il arrivait aussi parfois qu'un éditeur ou un directeur de revue ait quelques connaissances au sein des services de censure dans cette partie-là, donc ça a pu aider parfois. On distingue aussi différentes stratégies éditoriales pour la publication des périodiques qui dépendaient d'un autre service. C'était pas exactement la même censure. Les périodiques n'étaient pas visés par une censure immédiate de paraître. Donc on pouvait stopper un journal, mais on le voyait après, quoi. Puis on voit vraiment qu'en zone libre, et puis en Afrique du Nord jusqu'en novembre 1942, il y a des textes qui passent plus facilement. Donc ensuite, dans la base de données, en plus de l'émergence des femmes, ce que j'ai vu apparaître pour les volumes, c'est la grande présence de la littérature de divertissement. J'ai commencé à trouver des références d'auteurs contemporains, et puis je me suis dit, mais c'était interdit. Mais finalement, quand on regarde dans quel genre on autorise ces publications, c'est vraiment du roman policier, des romans sentimentaux, c'est de la littérature de divertissement. Mais de manière générale, on voit à cette période une grande consommation de littérature de divertissement. Les gens ne sont jamais autant allés au théâtre que pendant l'occupation. Enfin, les gens avaient besoin de divertissement. En ce qui concerne les traductions de l'anglais, au moment de ma thèse, donc 177 volumes répertoriés dans ma base de données pour l'anglais. Presque la moitié sont des romans policiers. Les contes et les romans sentimentaux sont également largement publiés sous l'occupation. Les auteurs sont des écrivains anglais ou américains contemporains. On a à peu près 11% de romans sentimentaux. Cette tendance révèle que le contenu d'une œuvre tombe davantage sous le coup de la censure que l'auteur lui-même, finalement. Ainsi, les instructions données par les listes auto ne sont pas respectées dans la pratique, donc toutes les traductions ne sont pas interdites, on le voit bien. Finalement, tout est laissé au bon vouloir de la censure, hein. Donc l'américaine Michelle K. Troy, qui a mené une étude sur le livre de poche sous le Troisième Reich, très intéressante, qui n'existe qu'en anglais, je crois, a écrit un ouvrage qui s'appelle Strange Bird, The Albatross Press and the Third Reich, sur les éditions de l'Albatros. Elle inscrit cette flambée de la littérature de divertissement dans une démarche économique. Elle écrit dans son livre « En 1938, la littérature étrangère était devenue si populaire qu'elle avait attiré l'attention du service de sécurité » de la SD, la branche du renseignement de la SS. Son rapport annuel sur l'état de la littérature déplorait un nombre effroyable de traductions d'autres langues. Il observait que les traductions avaient eu tendance à répondre au désir des lecteurs d'échapper aux réalités politiques, en prenant pour exemple le cas d'Autan en emporte le vent de Margaret Mitchell, et le rapport affirmait qu'avec de telles traductions, les éditeurs avaient placé leurs préoccupations économiques avant leurs responsabilités culturelles et politiques. Mais il admettait également que les traductions avaient satisfait un besoin auquel les livres allemands n'avaient pas répondu. Donc ça peut aussi expliquer effectivement la grande présence et puis l'autorisation de paraître d'une certaine littérature. Cependant, la place importante occupée par cette littérature correspond aussi à une logique économique. Pascal Fouché, donc spécialiste de l'édition sous l'occupation, qui a publié 2 tomes sur ce sujet, fera bien la distinction entre la littérature de divertissement et d'autres types de littérature. Il va dire, par exemple, les éditeurs jugent qu'il aurait mieux valu réduire l'ensemble de la production, mais à la proposition de réduire ou même de supprimer la littérature populaire, les éditeurs répondent que nombre d'entre eux seraient privés de base qui leur permet de publier la vraie littérature. Donc il y a aussi un peu un dénigrement à voir la littérature de divertissement comme un sous-genre littéraire, et qui a donc moins d'impact finalement sur la vie culturelle et intellectuelle. Donc les romans sentimentaux, c'est Jacques Cantier aussi qui en fait état dans son livre Lire sous l'occupation, assez récent, qui est un genre, comme il dit, principalement destiné aux jeunes femmes et aux mères de famille. Ils sont parfois désignés d'ailleurs comme des romans pour jeunes filles. C'est aussi un pan inoffensif de la littérature, on va dire. Finalement, avec tout ça, il apparaît que les écrivains qui sont réellement pointés du doigt, ce sont surtout les modernistes, en fait, la littérature moderniste. Eux étaient souvent désignés comme les responsables de la déchéance de la société, donc en fait, on pourrait y classer Rosamund Lehmann, elle était interdite. Néanmoins, on a aussi des textes qui circulent dans les périodiques, et on voit vraiment que les modernistes, notamment la poésie moderniste américaine, est beaucoup publiée aussi dans des revues comme Fontaine en Algérie. Donc. Les maisons d'édition, elles, semblent plutôt avoir bien joué le jeu de l'occupant en écrémant leur catalogue, en publiant des auteurs classiques ou autorisés. Seulement quelques ouvrages interdits, finalement, ont réussi à être publiés. Rapide inventaire des écrivaines anglo-saxonnes traduites sous l'occupation. Donc là, j'ai fait un petit graphique pour vous montrer la différence entre les volumes et les périodiques, puisque moi, ça apparaît clairement dans mes recherches. J'ai sélectionné parmi les 85 revues littéraire répertorié par Olivier Carigel, qui a rédigé un exceptionnel panorama des revues littéraires sous l'occupation, qui a été publié aux éditions de l'IMEC en 2007. Et donc lui, il répertorie 85 revues littéraires clandestines, légales, et puis d'ailleurs avec les sommaires. Donc c'est vraiment un travail très précieux. Moi, je me suis vraiment basée sur ça pour sélectionner les revues qui pouvaient avoir des traductions de littérature anglophone. Ça m'a bien facilité la tâche. Et donc je suis allée consulter toutes les revues sélectionnées et j'ai ajouté trois grands titres majeurs parce qu'en fait dans leur page littéraire on trouve de la traduction. Donc j'ai travaillé aussi sur Le Figaro, sur Comédia, sur la Nouvelle Revue Française et sur Message, une revue parisienne résistante. Grâce à cette confrontation, il apparaît déjà clairement, comme je vous dis, qu'il y avait deux logiques d'édition différentes. Les revues ne sont pas considérées comme une entité à part dans les textes législatifs ou officiels. Elles sont absorbées dans la catégorie administrative des périodiques plus large, qui renvoie à un rythme de publication et non au contenu. On a des revues qui ont été frappées par la censure un peu plus tard, comme Confluence à Lyon, parce qu'ils avaient publié un poème d'Aragon, par exemple, ou Fontaine, pour le poème Liberté de Paul Hugues. Fontaine, c'est la revue dirigée par Max-Paul Fouché à Alger, pendant l'occupation, et qui, vraiment, elle s'affiche dès le départ comme une revue résistante et publie beaucoup de littérature anglo-saxonne, dont un numéro américain très important, qui regroupe pas mal de textes de la base de données pour les périodiques, parce qu'il y en a énormément. Co-dirigée par Jean Val, la traduction depuis les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment des numéros anthologiques de propagande en lien avec les Américains et les services de propagande américains. Donc c'est vraiment une revue très importante. Oui. Donc avec tout ça, donc toutes mes recherches dans les périodiques et les volumes, voilà ce que ça donne. Donc on voit que les écrivaines anglophones traduites en volume sous l'occupation sont en majorité britanniques et elles s'expriment dans deux genres qui dominent largement nos statistiques, le roman policier, le roman sentimental, comme je l'ai dit. Mais dans les périodiques, ici, c'est opposé, c'est-à-dire que ce sont plutôt des américaines et plutôt en poésie qui sont publiées. Les noms d'autrices qui ont été publiées en volume, alors avec le nombre de textes. Alors, pour le nombre de textes, par exemple, pour Émilie Brontë, c'est parce qu'en fait, ce sont des recueils de poésie et chaque poème est considéré comme un texte par la base de données, donc forcément, ça peut monter très vite. Hein. Ces deux recueils de poésie, plus il doit y avoir Les Hauts de Hurlevent qui avait été traduit par La Maison des Vents Maudits. Parce que ce roman a eu vraiment énormément de titres différents en français. Et à l'époque, c'était La Maison des Vents Maudits. Et puis les poétesses américaines. Et donc là, on voit bien que c'est la poésie qui domine. Bon, notamment parce que le numéro de Fontaine, justement, de 1943, contient beaucoup de textes et a beaucoup compté dans les statistiques de la période. Gertrude Stein, c'est vraiment, elle prédomine aussi, puisqu'en fait, On la publie à la fois en volume, à la fois dans les périodiques, à la fois des essais, à la fois des poèmes. Donc elle est vraiment très présente. C'est peut-être aussi parce qu'elle vivait en France à cette époque-là. Elle était à côté de Lyon. Et puis donc elle avait des bons rapports avec la censure, visiblement, puisque contemporaine, américaine, homosexuelle, oui, et juive. Tout aurait pu concorder pour qu'elle soit... On a des ouvrages qui parlent de sa relation avec Bernard Faye, qui était conservateur de la BNF. Donc, moi, j'en sais pas plus, je n'ai pas trop étudié cette question-là. Elle aurait traduit aussi les discours du maréchal Pétain. Donc, vous voyez. J'ai noté, donc, les écrivaines anglo-saxonnes sont plutôt traduites par des femmes. 3 seulement ont été traduites par des hommes. Sur 18 noms. Dans le périodique, on a le constat inverse. Donc, sur 14 écrivaines identifiées, 4 seulement sont traduites par des femmes. Il est quand même légitime de nous interroger à l'époque sur le statut de la traduction poétique, puisqu'on a vu qu'en périodique, c'était principalement de la poésie, en tant que domaine privilégié des poètes traducteurs. Donc, on voit quand même apparaître que, en tout cas pour l'anglais, sur la période de l'occupation, la poésie est traduite par des poètes, et pas du tout par des femmes, et la littérature de divertissement, principalement par des femmes. Ce serait intéressant peut-être de comprendre un petit peu mieux ce phénomène sur la place des femmes traductrices. Est-ce que cela vient du fait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de poétesses françaises? Alors peut-être que c'est pas forcément un domaine privilégié, mais c'est peut-être aussi une question de disponibilité. Voilà. On a quand même quelques femmes qui traduisent des poèmes, hein. Il serait intéressant au moins de voir si c'est le contexte d'occupation qui fait ça, le fait qu'aussi on ait les contributeurs, les acteurs qui sont un petit peu éparpillés avec le contexte de guerre. Donc on a beaucoup de traducteurs de circonstances, c'est-à-dire des traducteurs qui ont remplacé peut-être au pied levé quelqu'un et puis qu'on ne reverra plus après. Parmi les 41 noms de traducteurs et de traductrices qui sont apparus dans notre étude sur les revues littéraires, 13 sont des femmes, donc seulement 30% à peu près. Et l'équipe la plus féminine, c'est l'équipe de Fontaine, qui est une équipe très jeune en fait, et qui aussi a beaucoup de contributeurs et beaucoup de textes à traduire. Donc forcément, statistiquement, on retrouve beaucoup de femmes. Mais on trouve des femmes qui sont intronisées par des hommes aussi, ou qui traduisent en couple. C'est le cas par exemple de Rachel Bespalov, qui est une philosophe suisse, fidèle amie de Jean Val. C'est Jean Val donc, qui la sollicite pour la confection du numéro américain. On a Yvonne Genova qui traduit beaucoup, qui est l'épouse de Jean Roir, qui n'est autre que l'administrateur de Fontaine. Et on a par exemple Dolly Charot, qui fait une traduction pour le numéro américain, qui est l'épouse de Pierre Charot, un architecte et décorateur d'intérieur, qui est membre d'une communauté artistique new-yorkaise bien intégrée dans le milieu des intellectuels français expatriés à l'époque. Madeleine Bosco, donc, qui traduit pour son mari, ponctuellement, juste pour le numéro anglais. Et Hélène Bokanowski, qui traduit beaucoup pour Fontaine et qui a suivi son mari à Alger avant d'entamer une carrière de traductrice. Donc finalement, c'est peut-être une des seules traductrices professionnelles. Et puis on a Olga Roudelimal aussi, qui semble avoir participé avec son mari à la traduction des poèmes de l'américain James Weldon Johnson pour les Cahiers du Sud. Et ce, dès 1930. Donc il traduit souvent en binôme. Et puis Madeleine Schaffer, qui avait traduit Steinbeck pour la revue Confluence, c'est la revue lyonnaise dirigée par René Tavernier. Donc il y a également ce phénomène de traduction en couple et en duo, en volume, mais c'est plus évident pour les périodiques. Donc dans ce contexte, les œuvres de Rosa Mandelmann sont interdites. C'est ce que confirme le journal L'Appel dans un numéro qui sort en 1943. Le journal L'Appel constate une baisse du marché noir et le relie aux événements internationaux. Il dit que le débarquement de Sicile aurait provoqué une baisse du marché noir. Dans cet article-là, l'hebdomadaire appelle les livres concernés des livres zazous. Ce sont ces bouquins qu'il faut avoir lus pour être gaulliste. Et il parle de Margaret Kennedy et Roger Mandelmann. À la gloire des seuls civilisés des États-Unis, les sudistes, ennemis des anglo-saxons. Et pourtant, j'ai trouvé récemment que dans les mémoires de Brasillach, qui sont publiées en 1941, qui lui donc était ouvertement fasciste, en dirigeant notamment le journal Je suis partout. Il avoue qu'il était lui-même friand des livres de Rosa Mandelmann et de Margaret Kennedy. Apparemment, dans les années 30, dans ses mémoires, il écrit « Nous commencions à lire les poètes et les romanciers étrangers, nous aimions Rilke et nous découvrions les livres de Rosa Mandelmann. La mode était aux romancières anglaises, à Poussière, à la nymphe au cœur fidèle, et puis nous voulions toujours entendre le théâtre de Giraudoux. » Donc les témoignages comme ceux de Brasillach ne sont pas rares. Je me suis arrêtée également sur le journal d'Hélène Berre, que je mentionne dans ma thèse, parce qu'elle était angliciste, elle étudiait l'anglais à la Sorbonne, et donc je voulais voir quelle était la vie d'un lecteur aussi d'anglais, d'un angliciste à l'époque, et donc son journal Il y a vraiment une mine précieuse d'informations. Et elle dit, par exemple, elle parle d'une situation assez cocasse à la bibliothèque où elle était bénévole. Elle dit « Lundi 8 novembre, bibliothèque, visite d'un Allemand qui voulait des livres anglo-saxons. S'il avait su à qui il s'adressait, étrange aussi que la seule langue qui ait pu nous unir ait été l'anglais. La situation avait du piquant. » Donc la littérature anglo-saxonne était très appréciée, ça c'est un fait, et les raisons de son interdiction sous l'occupation sont donc absolument morales et politiques, ça ne fait aucun doute. Rosamond Lehmann est très proche des milieux bonnardistes, comme on l'a dit, son frère John Lehmann était directeur de la maison d'édition du couple Virginia et Leonard Woolf, fondée en 1917, la Hogarth Press. Il existe aussi de nombreuses études et des articles en anglais. Finalement, en France, on en a assez peu. Donc, je suis moi-même pas spécialiste de Rosamond Lehmann. Il y a des spécialistes. Donc, je ne peux pas aller vraiment, voilà, dans le détail de sa vie et de son œuvre. Mais en ce qui concerne les éléments biographiques, je me suis appuyée sur les expertes en France. Donc, on a Françoise Bort, que j'avais d'ailleurs contactée pour avoir des informations sur Jean Talva. Je me suis dit, si elle est spécialiste de Rosamond Lehmann, elle a peut-être des informations. Puis en fait, elle m'a gentiment conseillé des ouvrages. Et puis donc, il y a aussi Marie-Françoise Cachin, décédée récemment, mais qui a aussi fait quelques articles sur l'écrivaine. Elle a donné des conférences ici, d'ailleurs, j'ai vu. Puis je crois qu'il n'y a eu qu'une seule thèse dédiée à Rosamond Lehmann en France, à ma connaissance, mais peut-être qu'il y en a un petit peu plus. C'est une thèse soutenue en 1977 à l'université d'Aix-Marseille par Marie-Josée Codaccioni. L'œuvre de Rosamond Lehmann, sa contribution au roman féminin 1925-1952. Et c'est le premier doctorat français consacré à l'œuvre de Lehmann. Donc Rosamond Lehmann était une écrivaine anglaise, née en 1901 dans le sud-est de l'Angleterre, le Buckinghamshire. Elle a grandi dans un milieu littéraire et intellectuel et cultivé. Son père et son frère sont actifs dans le milieu de l'édition et du journalisme en Angleterre. Elle a une sœur comédienne qui a écrit quelques nouvelles et une autre sœur qui n'a pas choisi de carrière artistique mais qui a œuvré pour The Society of Authors, donc la Société des auteurs. Rosamond apprend le français dès son plus jeune âge et comme je l'ai dit, elle a traduit donc Jean Cocteau et Jean Cassou. Elle fait des études de langue moderne, ça de littérature et de langue moderne à Cambridge. Et puis elle a été écrivaine mais aussi critique littéraire prolifique, éditrice. Et puis elle a aidé son mari dans l'entreprise de sa revue littéraire. Et donc elle publie son premier roman en 1927, Dusty Answer, qui a été un succès aux États-Unis et qui a donné lieu à une tournée de conférences et de rencontres à New York, qui a été traduit sous le titre français Poussière aux éditions Plomb en 1928 par Jean Talva. C'est le début d'une collaboration qui va durer, je pense, une vingtaine d'années. Son deuxième roman, A Note in Music, sera publié en 1930 et traduit par Une note de musique. En 1931, toujours chez Plomb, par Jean Talva. Son troisième roman, ce sera Invitation to the Waltz, traduit par L'invitation à la valse, en 1933, en France. Et puis le quatrième roman, The Weather in the Street, ça a été traduit par Intempérie, par Jean Talva, chez Plomb, en 1936. En 1938, Rosamond Lehmann participe au rassemblement des écrivains contre le fascisme qui se tient à Londres. Donc on n'a aucun doute sur ses croyances politiques. Et c'est cette même année qu'elle écrit sa seule pièce de théâtre, No More Music, traduit en français par Adieu Chanson. C'est une pièce en trois actes qui en fait a été jouée un an avant sa publication, avec sa sœur Béatrix, donc dans le premier rôle, et qui montre le parcours d'une femme poussée vers la mort, faute de trouver dans l'écriture et dans l'échange une issue à ses aspirations et à sa solitude, comme le décrit Françoise Bort. Donc ça reprend le thème de la mort de l'âme et du désir, comme dans Poussière finalement, il y a toute une continuité dans les œuvres de Lehmann, notamment, on le sait, grâce aux nouvelles études qui ont été menées dans les années 80 avec les rééditions. C'est la seule œuvre aussi qui va paraître sous l'occupation en français, alors qu'elle fait partie des écrivaines interdites, mais il s'agit d'une pièce de théâtre, ce n'est pas un de ses romans. Peut-être est-ce que ça a eu un aspect un peu plus inoffensif qu'un roman, je ne sais pas. Et puis on a sa présence aussi dans Agüedal, donc que j'ai mentionné tout à l'heure, la revue d'Henri Bosco, dans ce numéro anglais qui a été traduit par Madeleine Bosco. Et donc elle envoie une lettre désespérée à Jean Talva, et c'est le nom de son essai d'ailleurs, Lettre à Jean Talva. Et puis elle essaie de rentrer en contact avec sa traductrice, et puis elle est assez désespérée. Les archives de Rosamond Lehmann montrent qu'elle a été très active pour venir en aide aux écrivains juifs réfugiés à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a été également volontaire pour parler à la BBC lors d'une émission dédiée aux femmes de France, de la France occupée. Son engagement est tout à fait connu, visible et puis intense. En 1945, elle publie son cinquième roman, qui a été traduit par La Balade et la Source par Jean Talvin. En 1946, elle rejoint la maison d'édition de son frère John comme lectrice rémunérée. Elle a aussi participé financièrement au lancement de la maison. Et la même année paraît un recueil de nouvelles. Ce sont toutes ces nouvelles qui avaient été publiées dans Folios of New Writing et dans The Penguin New Writing pendant la guerre, sous le titre The Gypsy's Baby, donc traduit sous le titre L'enfant de la bohémienne. C'est une traduction qui a été débutée par Jean Talva. Jean Talva est décédé en 1947, avant d'avoir achevé la traduction. La traduction a été terminée par Gabrielle Marcel et une autre collaboratrice dont on ignore le nom. Et finalement, le recueil a pu être publié en 1948 chez Plon. Et c'est dans ce recueil donc que nous trouvons un hommage à Jean Talva de Gabrielle Marcel, mais aussi de Rosamund Lehmann. Ensuite, en 1953, paraît The Echoing Grove, ça a été traduit par Le Jour Enseveli, traduction de Anne Marcel, donc la belle-fille de Gabriel Marcel, qui était lui directeur de la collection étrangère hein, chez Plon, à partir de 1933 et jusqu'à sa mort en 1973, je crois. Et puis, des fragments autobiographiques sont publiés sous le titre Le Signe au Crépuscule, en 1967, chez Plon toujours, avec une traduction de Simone Sinclair. Et son septième et dernier roman paraît en 1976, The Sea Grape Tree, traduit en français par L'Arbre de Mer, par Marie-Alix Revella en 1978. Voilà, ses contributions au monde de l'édition, aux journaux, aux revues littéraires sont extrêmement nombreuses. Sa présence dans les milieux littéraires a été significative. Sa présence s'étend des années 1920-1980, donc c'est vraiment une écrivaine prolifique dans plusieurs domaines de la littérature, en fait. Et en 1982, elle reçoit la distinction de Commander of the British Empire, donc l'ordre de l'Empire britannique. Pour Rosamund Lehmann et la France, plus précisément, j'ai mis quelques traductions ici qui figurent. Donc, c'est pas à la fin de cet ouvrage, c'est à la fin de celui de Marie-Françoise Cachin. C'est un chapitre qui s'intitule « Les éditions en français de Rosamund Lehmann » et en fait, c'est les actes du colloque qui s'est tenu en 2003. Son œuvre a longtemps été classée de manière pour le moins réductrice dans la littérature féminine ou les romans sentimentaux, comme on l'a dit. Mais si ces romans mettent souvent en scène une jeune femme dans une situation d'apprentissage, ils présentent aussi une critique de la société et évoquent de manière poétique le désespoir d'une génération. Souvent, l'histoire d'amour occulte quelque peu la visée poétique de son œuvre. Heureusement, son œuvre a été redécouverte et réétudiée dans les années 80. Grâce aux éditions Virago qui ont décidé de rééditer tous ces romans échelonnés sur plusieurs années. Et puis donc selon Françoise Borte, je la cite, « Si aux États-Unis la critique universitaire s'est attachée presque exclusivement à voir l'œuvre de Lehmann une parole féminine de la société de son temps, les travaux universitaires français ont au contraire insisté sur les interrogations métaphysiques qui organisent la dimension poétique et la logique narrative du discours romanesque. » Donc pour la relation entre Rosamund Lehmann et Jean Talva, donc j'en suis venue à m'intéresser à l'œuvre de Rosamund Lehmann, surtout par le biais de sa traductrice Jean Talva, qui est très présente sous l'occupation dans ma base de données. Par contre, je n'avais aucune information sur elle. Donc j'ai vu qu'elle avait fait énormément de traductions. Et puis, impossible de trouver des informations. Je trouvais ça très mystérieux. Et puis, heureusement, je suis tombée donc sur cet hommage à Jean Talva en préface de L'Enfant de la Bohémienne, qui donne son nom déjà, Marthe Lévesque. Et puis, qui donne quelques informations. Et dans cet hommage, Rosamund Lehmann cite une lettre qu'elle aurait reçue de sa fille, de la fille de Jean Talva, pour lui dire quelle était sa vie sous l'occupation, qu'est-ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve cette lettre, c'est vraiment le seul moyen. Les archives de Rosamund Lehmann, il y a deux endroits où on peut trouver ces archives, à Austin, à l'Université du Texas, donc là c'est un petit peu compliqué pour moi de m'y rendre, mais aussi elle a un fonds à Cambridge, puisqu'elle a étudié là-bas à King's College, donc je me suis dit je vais aller voir là-bas. Apparemment elle aurait une correspondance très riche, elle aurait conservé ça, elle aurait peut-être pas très bien conservé les documents de travail, mais par contre ces correspondances apparemment étaient bien là. Et je suis également allée voir les archives de Stock, je crois, à l'IMEC, parce qu'il l'avait embauchée sous l'occupation, donc je voulais essayer de trouver l'origine vraiment de cette histoire. Et en fait, les archives avaient été reçues, mais n'avaient pas encore été classées à l'époque. Je n'ai pas pu les consulter. Chaque fois, c'était un petit peu compliqué. J'ai fini par trouver aux archives. J'ai passé 2 jours à Cambridge, et en fait, je n'ai rien trouvé. Donc j'étais très frustrée, très triste. Mais j'ai trouvé une information, finalement, qui s'avérera décisive pour la suite de mes recherches, comme quoi, parfois, une aiguille dans une botte de foin suffit. Et en fait, j'ai trouvé une lettre de sa fille, et donc j'ai pu connaître le prénom de sa fille, et donc Louise. Et donc ça a été le début finalement de quelques recherches sur la piste de Marc Lévêque et sa fille Louise. Et puis un collègue m'a aidé à chercher des informations sur elle, et puis ce qui a été très stratégique aussi, c'était de trouver son nom de jeune fille en fait, parce que avec les femmes aussi, l'un des obstacles, c'est que lorsqu'elles ont été mariées, il est difficile de retrouver l'acte de naissance, etc. Donc, si on n'a pas le nom de jeune fille. Donc, finalement, j'ai retrouvé son nom de jeune fille. Et puis, donc, Marthe Liébert. Et donc, comme ça, et grâce à un collègue, Alexis Totou, que je remercie, très, très doué dans les recherches généalogiques comme ça, j'ai pu retrouver son certificat de mariage. Et puis ensuite, le certificat de naissance de sa fille. Donc, le prénom de sa fille m'a permis de confirmer que les documents que j'avais en ma possession étaient bien la bonne personne, puisqu'elle avait eu une fille qui s'appelait Louise Lévêque, née. Ensuite, ce qui m'a permis de rédiger le portrait, ça a été un fonds récemment aussi enregistré à la bibliothèque Richelieu, qui est le fonds Gabriel Marcel, et qui contient une correspondance aussi très riche entre donc les Marcel, Gabriel Marcel, sa femme, et puis Marthe et sa fille Louise. Donc les quatre se sont beaucoup écrits, et en fait on a à la fois des lettres sur les traductions. Elle peut poser des questions à Gabriel Marcel, donc on a quelques indices sur sa manière de traduire, en fait, de l'ordre des traductions, par exemple sur l'occupation. On a aussi quelques lettres un peu plus personnelles. Donc Marthe Liébert, écrivaine et traductrice, est née le 20 février 1871 à Paris, et son père était en fait Eugène Liébert, était journaliste. Il était secrétaire adjoint à la Revue des Deux Mondes pendant un temps et attaché à la rédaction d'un journal d'agriculture et de divers journaux indépendants. Nous n'en savons pas beaucoup sur l'enfance et le parcours scolaire de Marthe, si ce n'est qu'elle a obtenu l'agrégation de lettres et qu'elle a appris l'anglais durant ses études sans jamais être allée en Angleterre. Elle épouse Paul-Louis Lévêque, docteur en médecine de 26 ans son aîné. Le couple s'établit à Reims dans la Marne, d'où est originaire le mari. Et leur fille unique, Louise, née à Reims le 31 octobre 1897. Son mari décède en 1926 dans la Marne, à la suite de quoi on imagine que Marthe décide de retourner s'installer à Paris avec sa fille dans le 16e arrondissement, aux 3 Villa Mozart exactement. C'est dans les revues littéraires et pas des moindres qu'elle commence son activité. Elle a contribué à des revues prestigieuses comme la Nouvelle Revue Française. On peut imaginer que c'est peut-être grâce à son père qui avait des contacts, qui était déjà dans les journaux parisiens, qui était déjà connu des journaux parisiens. Elle a rédigé des articles, des critiques qui ont été très appréciées d'après les articles qu'on en lit. Elle contribue à la Nouvelle Revue Française aussi, avec Le Sacrifice des Apparences à propos des écrits d'Eugène Carrière, un peintre qu'elle compare à Fromentin. En parallèle, elle commence à rédiger des textes littéraires, et en fait, en 1910, elle publie une nouvelle dans la Grande Revue, en 2 épisodes, donc dans le numéro du 10 décembre et du 25 décembre, qui s'intitule « La retraite ». Et donc, en examinant de plus près cette nouvelle, et puis en comparant avec son arbre généalogique, je me suis rendu compte que c'était une nouvelle au moins semi-autobiographique. Et donc, ça m'a donné des informations aussi sur la traductrice. L'histoire donc de la nouvelle raconte les premiers mois qui suivent le départ à la retraite d'Elisa Vallier, ancienne directrice de l'école normale de X dans le sud de la France. Elle retourne dans son village natal pour vivre avec sa sœur, dont elle doit s'occuper. Pendant les vacances, son fils journaliste à Paris lui rend visite, accompagné de sa femme et de leur fille prénommée Marthe. La fin de la nouvelle se termine d'ailleurs sur les sensations de la petite fille à la vue du paysage qu'elle aperçoit le matin au réveil à travers la fenêtre. Et donc la grand-mère paternelle de Jean Talva, Élise Le Vilain, son nom est donc très proche de celui d'Elisa Vallier de la Nouvelle, était directrice de l'école normale d'institutrice d'Aix-en-Provence. On pourrait dire que Aix et X, X, je pense Aix en anglais, bon peut-être qu'il y a un lien. Et Marthe Lévêque a grandi à Paris auprès d'un père journaliste. Donc la petite Marthe de la Nouvelle et son père journaliste font écho aussi à sa vie. Elle, qui écrira sous pseudonyme durant toute sa carrière, aurait ainsi révélé sa véritable identité dès ses premiers écrits, finalement, en toute discrétion. Cette nouvelle pourrait être aussi un hommage à sa grand-mère et le récit de ses souvenirs d'enfance. Elle publie aussi des ouvrages en 1929 dans La forêt sans chemin, légende héroïque et sacrée de l'Inde antique, qui reflète l'intellectuel des Français pour la spiritualité hindoue au début du XXe siècle. Et le volume est décrit comme un récit basé sur une sélection de textes de différents spécialistes de l'Inde en français ou traduits de l'anglais. Elle écrit aussi des livres pour enfants, « Quel voyage » en 1934, puis « Les mémoires d'un haricot » en 1936, illustré par Henriette de Costier, vivement salué par la critique. C'est à peu près à la même époque qu'elle débute sa carrière de traductrice, et non sans mal, parce que quand elle accorde un entretien au journal Clarté, quelques années plus tard, elle raconte « Ma première tentative fut d'ailleurs infructueuse. Lorsque j'allais proposer à un éditeur parisien un essai de traduction, il me demanda d'un air ironique si je savais bien ce que c'était que traduire. » Donc finalement, sa première traduction est publiée chez Plon. On imagine que c'est par ses liens avec Gabriel Marcel, mais finalement, j'ai eu du mal à comprendre à quel moment ça avait commencé. Mais j'ai cru comprendre que leur amitié avait commencé avant la traduction, mais je ne sais pas comment exactement, dans quelles circonstances. Et donc, en traduisant Poussière, qui est aussi l'un des premiers titres de littérature anglo-saxonne à faire son entrée dans le catalogue Plon, elle connaît un immense succès, et puis elle contribue à établir solidement sa réputation de traductrice, et je pense que ça lui donne envie de continuer dans cette voie. Elle est saluée aussi par des collègues traducteurs tels que René Laloux, qui, vraiment, dans les revues et dans les journaux, ses traductions sont toujours vivement appréciées, de manière très positive. Elle est traductrice prolifique d'autres maisons d'édition qui lui proposent des traductions chez Albin Michel, chez Stock, par exemple. Pendant l'occupation, j'avais très peu d'informations. J'ai cru que je n'avais pas d'informations. Je savais qu'elle avait quitté Paris. Et comme elle a traduit un roman interdit qui était Virginia Woolf, La Chambre de Jacob, Jacob's Room, ça a été publié chez Stock en pleine période de l'occupation. Je me suis dit peut-être qu'elle était pas dans des réseaux de résistance. J'avais cru comprendre qu'elle avait été vers Bayonne. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être... je vais découvrir un chemin. Et puis en fait, pas vraiment. Je vais vous aller voir. Donc Marthe Lévêque et sa fille Louise quittent Paris dès le début de la guerre, avant même l'occupation par les Allemands, pour s'installer à Mont-de-Marsan, parce que Louise, sa fille, attend une affectation en tant qu'aide infirmière dans l'armée. Et donc elle a des neveux à Mont-de-Marsan, et toutes les deux vont habiter à Mont-de-Marsan. Marthe Lévêque a une santé assez fragile, donc Louise est rassurée de savoir sa mère auprès d'elle. Les journées de Jean Talvas sont principalement rythmées par des promenades, parfois avec la petite Colette, donc la fille de son neveu, et puis par son travail de traduction. La correspondance entre les femmes Lévêque donc, et Gabriel Marcel est très riche et donne des précieuses informations. C'est vraiment là, dans ses lettres, dans le fond Gabriel Marcel, que j'ai tout trouvé finalement sur cette période. Donc au moment de son départ en 1939, elle travaille sur la traduction française du roman de March Cost, The Dark Glass, qu'elle reçoit par extrait, qui sera publié la même année chez Plon. Elle décide ensuite de reprendre sa traduction de The Death of the Heart d'Elizabeth Bowen, qu'elle trouve trop mauvaise, donc elle reprend sa traduction. Mais elle travaille dans des conditions difficiles, elle doit déménager plusieurs fois, elle dit qu'elle peine à se chauffer et que selon elle ça affecte la qualité de son travail. Elle retourne de temps en temps à Paris, mais elle avoue que c'est de plus en plus difficile, les trains sont mobilisés pour le transport des réfugiés, sa fille est souvent absente, elle se sent très isolée. Le manuscrit retravaillé des cœurs détruits, donc, d'Elizabeth Bowen, sera finalement envoyé aux éditions Plon en février 40. Donc là aussi, on est dans des auteurs plutôt contemporains, mais bon, février 40, ça rentrait pas encore dans ma période. En 1940, elle termine également la traduction d'Adieu chanson, la pièce de théâtre donc de Rosamund Lehmann. Donc là aussi, je pense que c'est un peu à la limite. Donc en fait, finalement, les éditeurs avaient le droit d'écouler leur stock. Ils ont fait paraître assez vite leur parution de début d'année. Et ils ont un petit peu accéléré les choses pour pouvoir faire paraître la plupart des titres qui avaient déjà été traduits. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a quand même eu cette pièce qui a été publiée. Et puis donc son travail autour de la traduction de Jacob's Room de Virginia Woolf commence dès 1939, mais en fait les éditions Stock lui demandent d'arrêter et de faire passer en priorité la traduction française de The Unbroken Heart de Robert Pei. Est-ce que c'est parce que justement on est sur plutôt de la littérature plus acceptée? Ce serait vraiment intéressant d'avoir accès aux archives de Stock et puis de voir si quelque chose nous permet d'avoir des informations. Pour Virginia Woolf, La Chambre de Jacob est finalement diffusée en 1942 uniquement en zone libre, région administrée par le régime de Vichy, donc où, je vous le disais, les services de censure étaient peut-être moins stricts. Et puis, des années après le décès de sa mère, Louise Lévêque écrira à Gabriel Marcel pour lui annoncer que les éditions Plon ont souhaité racheter les droits de la traduction et faire reparaître le roman afin de lui donner la diffusion qu'il mérite. On peut penser aussi que pour la publication de ce roman, les éditions Stock ont pu bénéficier du manque de cohésion des propagandes allemandes, parce qu'on sait que parfois, le temps que les différents services se mettent en place, quelques traductions interdites ont pu passer. On a aussi donc le service militaire qui s'occupait donc la censure, la propaganda Staffel qui pouvait exercer la censure, mais aussi l'ambassade d'Allemagne. Donc parfois, ça a permis de passer entre les mailles du filet. Et puis on a aussi que donc la censure se durcit véritablement avec la dernière liste auto en 43. Peut-être qu'il y a aussi cette raison-là. Il y a aussi le fait qu'au sein des éditions Stock, la maison est gérée par Maurice Delamain et Jacques Chardonne. Jacques Chardonne qui était donc, avec la collaboration. Le directeur de la collection de littérature étrangère n'est autre que son beau-fils, André B., qui est un pseudonyme, le pseudonyme d'André Dupont. Donc c'est le beau-fils de Jacques Chardonne, qui était un angliciste absolument admiratif et passionné de littérature américaine et de littérature anglaise et des modernistes. Et puis donc, peut-être qu'il a insisté aussi en se disant « Wolf, c'est très important, il faut le publier » et peut-être que ça a peut-être facilité sa publication aussi. Après, on ne peut se contenter que de suppositions, j'en ai pas eu la preuve, mais il y a plusieurs facteurs qui font que cette traduction interdite a pu être publiée. Donc pour la traduction, je vais simplement terminer avec finalement la manière de traduire de Jean Talva, qui pour Virginia Woolf, que j'ai étudié un petit peu plus en détail, semble un peu problématique par certains aspects, parce qu'en fait la traduction se rapproche parfois de la réécriture. On sent quand même le style de l'écrivaine. Par exemple, on sait que le style particulier de Virginia Woolf repose sur une utilisation minutieuse et réfléchie de la ponctuation et du rythme, en général pour refléter l'état d'esprit d'un personnage, et Marthe se permet de modifier ça. Et puis elle effectue des changements de ponctuation, de temps, ce qui modifie tout le rythme de la phrase. Et puis donc on a des écarts qui atténuent quelque peu l'aspect poétique de certains passages, et donc qui atténuent le style de l'écrivaine anglaise. Les inversions syntaxiques aussi sont typiques du style de Virginia Woolf, pas toujours restituées par la traductrice, et aussi on a plusieurs passages où elle se permet d'expliciter, alors que le style de Virginia Woolf c'est quand même tout en suggestion, et c'est pour probablement dans le but de faciliter la compréhension du lecteur, mais en tout cas ça modifie l'original. Donc les écarts de la traductrice sont nombreux, c'est ce que Marie-Françoise Cachin avait observé également, mais il y a aussi des passages qui sont excellemment bien restitués, qui sont très très bien écrits. Donc Marie-Françoise Cachin parle parfois d'une recréation. Après, il ne faut pas oublier que dans les conditions de l'occupation, elle a dû quand même retranscrire le style d'une écrivaine qu'elle connaissait peu. C'était pas la même chose que Rosamond Lehmann. On sait que Rosamond Lehmann participait aussi, vérifiait les traductions, comme elle parlait français. Donc c'est vrai qu'on se demande à quel point Rosamond Lehmann a pu contribuer à ses propres traductions finalement. Mais en tout cas, Rosamond Lehmann était absolument ravie des traductions de Jean Talva. Elle pensait avoir trouvé un double, et puis donc c'était vraiment une relation fusionnelle entre les deux. Donc 1946, c'est l'année de la reconnaissance pour Marthe Lévêque, qui obtient un prix de traduction, le prix Alperine Kaminski, pour sa version française de La Ballade et la Source de Rosamond Lehmann, publiée dans la collection originale chez Plomb en 1945. Et dans ce cadre, elle est interrogée par le journal Clarté, qui est un hebdomadaire de combat pour la résistance et la démocratie, et qui publie un article dans son numéro du 11 janvier 1946. C'est l'une des rares interventions de Marthe dans la presse, avec une photo aussi. Et donc Jean Talva dit sur son métier de traductrice « Je me suis rendu compte depuis qu'on n'avait pas eu tort de me mettre en garde contre les dangers d'une traduction trop hâtive, insuffisamment méditée. Traduire est à la fois un art et un métier. » Il y faut un don et de l'expérience. Il faut beaucoup de temps aussi, car sans un assez grand recul, on ne peut juger sainement de son travail. Donc au moment de cet entretien, Marthe Lévêque est certainement très malade, puisque elle va mourir l'année d'après, le 25 juillet 1947, à Garches. Elle part en laissant sa traduction, comme je vous le disais, L'enfant de la bohémienne, inachevée. C'est ensuite Anne Marcel, la belle-fille du philosophe, donc, qui effectuera les traductions du roman suivant, Le jour enseveli. Et puis je vous ai déjà parlé donc des traductrices différentes finalement, puisqu'elle a eu donc Anne Marcel. Et puis ensuite pour Le cygne au crépuscule, ça a été Simone Sinclair. Et puis pour L'arbre de mer, Marie-Alix Révéla. D'autres traductions de Jean Talva seront publiées même après sa mort. Le cataclysme par exemple de Stephen Gilbert en 1947. Une traduction d'Emily Brontë, apparemment, des Hauts du Hurlevent. Et deux traductions de Dickens pour Stock ne paraîtront pas, en tout cas je ne les ai pas retrouvées. Donc elle en fait état dans ses lettres, mais je n'ai pas pu trouver ces traductions. Donc finalement, alors que Jean Talva était visiblement reconnu pour son travail à la fois d'écrivaine, de critique, et puis aussi qu'elle a été vraiment active au sein de grandes maisons d'édition françaises, plusieurs même, pendant plusieurs années, il est étonnant de ne trouver que très peu d'informations sur la traductrice, même aucun article ou étude qui lui aurait été dédié. Ses archives personnelles sont également introuvables. J'ai fait la demande, par exemple, du certificat de décès de sa fille. Je suis allée jusque-là à Paris, parce que j'ai su où elle était décédée. Et pour voir au moins si elle avait été mariée, si elle avait un héritier, je ne sais pas où sont ses archives. Et puis en fait, elle n'a pas été mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Donc là, je suis au point mort. Je ne sais pas où sont, si elles existent, si tant est qu'elles existent et qu'elles ont été conservées. Mais ça serait vraiment quelque chose de vraiment très précieux. Ces traductions sont pourtant encore rééditées aujourd'hui. La Chambre de Jacob est reparue aux éditions La République des Lettres en 2024, donc tout récemment. Pour en terminer sur la traduction de la littérature anglo-saxonne pendant l'occupation, on peut dire que c'est finalement un sujet actuel. La traduction, ici on le voit bien, relevait vraiment d'un enjeu politique, d'un enjeu de manipulation et de contrôle de la vie intellectuelle. Et donc tout s'intéresser à la trajectoire de ces passeurs, on appelle souvent les traducteurs des passeurs, ou des importateurs de littérature, ce sont quand même des acteurs essentiels qui ont réussi à faire en sorte de maintenir les liens entre certains pays, alors que tout avait été fait pour les défaire ou pour les empêcher, et qui ont permis d'assurer une certaine continuité finalement dans l'importation de la littérature étrangère. Et c'est pour ça qu'en s'intéressant à leur trajectoire, on comprend quand même mieux aussi la trajectoire des traductions, et puis parfois de certains écrivains. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Pardon d'avoir dépassé.